13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoir.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Joie, tristesse, peur, colère, dégoût, sérénité et déception. Sept émotions qu'ont pu ressentir les chercheurs et les chercheuses pendant leurs recherches. Émotions, c'est une série de podcasts produits par le Labo des Savoirs à l'occasion de la Fête de la Science 2021 en métropole et en format radio à l'occasion de la Fête de la Science à l'Outre-mer et à l'international. Une série de témoignages réalisés par Dunia Saez et Sophie Potvin.
Émotion.
Susanna Zimmermann est maîtresse de conférence au sein de l'équipe Algèbre et Géométrie au laboratoire Angevin de recherche en mathématiques. Médaille de bronze du CNRS 2020, pour elle, la joie fait partie intégrante de sa vision de la recherche.
Pour moi, la joie de poursuivre une question, de poursuivre, trouver la réponse à cette question et le plaisir au moment qu'on la trouve, ça c'est la motivation principale pourquoi j'ai fait de la recherche.
C'est votre motivation, vous voulez éprouver de la joie dans l'exercice de la recherche.
C'est ça, oui, exact.
Et vous arrivez à relier ce sentiment au même titre que la joie plus traditionnelle que l'on connaît dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est le même sentiment que vous éprouvez?
Il n'est pas loin. Il n'est pas tout à fait la même chose. Quand j'ai le plaisir de voir ma famille, mes amis, je réjouis. Mais quand je trouve une réponse, j'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi à quelque chose et ça me donne un énorme plaisir. Et aussi, pendant la recherche de la réponse, parfois on rencontre des choses, on réalise qu'on a fait une erreur ici ou il y a des choses qui se passent qu'on trouve drôles. Aussi là, il y a une joie. En regardant des sœurs, on s'est dit, mais c'est vachement cool ce qui se passe ici. Et ça, c'est plutôt similaire si on rencontrait un ami, on n'a pas vu depuis quelques temps, et on est juste très content de voir cette personne. Et là-bas aussi, sur le tableau noir, on regarde quelque chose, on voit quelque chose, on s'est dit, ah oui, c'est cool de voir ça comme ça, dans ce contexte, c'est vachement cool.
Et dans l'exercice de votre métier d'enseignante-chercheuse et de maître de conférence, à quoi ça ressemble votre quotidien, votre recherche?
Une partie de mon travail, c'est d'enseigner à l'université. Et l'autre partie qui est recherche, c'est de discuter avec des collègues, avec des collaborateurs sur des objets en maths fondamentales. On se pose des questions et on essaie de les répondre. Et si on n'arrive pas tout de suite, je vais m'asseoir et je vais réfléchir, rechercher est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont déjà fait quelque chose dans cette direction. Normalement, je suis juste là et je réfléchis.
Pour ensuite poser de nouvelles théories, proposer des nouveaux outils.
C'est ça, exact. Donc à chaque fois qu'on trouve quelque chose, il y a un grand nombre de questions qui se rouvrent. Donc pour chaque question qu'on répond, il y a des nouvelles questions qui se posent et vous pouvez tous répondre.
Beaucoup de questions, c'est est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette beauté dans les mathématiques à essayer de trouver un ordre, de trouver une réponse? Ça vous procure de la joie un petit peu ce langage de mathématiques?
Oui, par exemple, il y a un argument est toujours suite à une intuition, à une idée qu'on a. On a fait un dessin, on a trouvé une bonne équation, on a fait des exemples, on a une idée, qu'est-ce qui va se passer. On le formalise. Et pour nous, si on veut trouver une réponse, ça veut dire souvent qu'on fait une démonstration de quelque chose. Et dans l'argument, il y a une beauté. Il y a des arguments qui sont beaucoup plus accessibles ou intuitifs ou géométriques. Et il y a des arguments qui sont plutôt très, 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 très techniques, très, très calculaires. Ils sont un peu, ça ne plaît pas trop. C'est juste, on batte les arguments avec des calculs. Mais il y a aussi des arguments qui sont juste géométriques et c'est juste comme ça, on peut le suivre, on a une idée. Comme si on fait de la musique, on a un piano, on sait exactement quelles sont les tastes qu'il faut taper. On peut dire un robot le fait. Donc ça, c'est comme une démonstration qui est vachement technique. Il y a beaucoup de calculs. Il faut vraiment juste aller là avec le robot et poursuivre. Et il y a des gens qui s'assoient au piano et qui jouent juste avec un plaisir énorme. Et ils sont techniquement parfaits, mais on sent qu'ils sont là avec le cœur. Et un bon argument logique, une démonstration, c'est comme ça.
Et c'est un sentiment que vous partagez également avec les autres personnes de votre équipe ou de la communauté scientifique, cette joie que vous pouvez ressentir à créer cette partition et à trouver le résultat que vous n'attendiez peut-être pas.
Oui, tout à fait. C'est un plaisir qu'on partage tous. On est tous des gens très, très différents et ça nous rejoint. On a tous un plaisir si on voit un résultat présenté qui était surprenant. On est tous, ah oui, c'est vachement cool, c'est surprenant, j'ai pas pensé que ça marche, ah oui. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Ah oui, l'argument est vachement beau. Et voilà.
Et c'est quelque chose que vous arrivez tout de même à reproduire, enfin, à rencontrer régulièrement dans votre travail, ou c'est vraiment le fruit d'un labeur long de questions, d'échanges, ou c'est tous les jours?
Pas tous les jours. Donc, ça peut arriver qu'on ne rencontre pas vraiment cette joie pendant des semaines, pendant des mois, parce que ce qu'on essaye ne marche justement pas. On n'arrive pas à comprendre ce qu'on veut comprendre. Et parfois, on regarde des choses et on les comprend assez vite. Des semaines ou juste chaque quelques journées, on discute avec le collaborateur et chaque fois, on a le plaisir de comprendre quelque chose de nouveau. Ça dépend vachement de...
Et on sent dans votre sourire et dans la façon dont vous parlez de votre travail que tout de même, cette joie fait partie un petit peu du quotidien et que vous avez plaisir à exercer ce métier. C'était un plaisir et merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Hélène Cecilia est doctorante dans l'unité BioEnPAR INRAE, École vétérinaire de Nantes. Après 3 ans de recherche, elle finit sa thèse dans le domaine de l'épidémiologie et de la modélisation mathématique.
Je dirais que la peur, c'est une émotion qui n'est pas forcément agréable à ressentir de base. C'est une émotion qui peut nous paralyser ou aussi nous foutre un coup de pied aux fesses selon comment on la ressent, je dirais. Qui moi, m'accompagne en tant que doctorante, qui vient toquer à ma porte, on va dire, de temps en temps.
Alors la peur, on va en parler, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez? Quel est votre sujet de thèse?
Alors du coup, comme vous l'avez dit, moi je fais de l'épidémiologie. L'unité dans laquelle je travaille s'occupe de la santé animale. Donc mon sujet s'intéresse à la santé des animaux d'élevage en particulier. Et je travaille en fait sur une maladie qui s'appelle la fièvre de la vallée du Rift. Donc c'est une maladie qui se transmet des moustiques aux animaux, qui provoque des vagues d'avortement et de la mortalité chez les jeunes individus. Elle se transmet aussi des moustiques aux hommes et elle se transmet aussi des animaux aux hommes. Et donc moi j'étudie cette maladie, enfin la transmission de cette maladie au Sénégal en particulier. Mais je fais tout ça majoritairement depuis mon ordinateur, vu que je modélise en fait les épidémies de cette maladie avec des programmes informatiques.
Alors les moustiques, moi personnellement ça me fait peur, mais est-ce que c'est ce sujet de thèse qui vous inspire de temps en temps la peur ou totalement autre chose ?
Non, c'est pas pour le sujet en fait que j'ai choisi cette émotion, c'est plutôt en fait je pense lié au statut de doctorant et un peu plus, enfin au statut de chercheur aussi, mais je pense que c'est quand même propre au doctorant. Bon, c'est quand même un statut assez précaire et donc du coup pour moi j'avais envie d'aborder la peur sur deux aspects. D'abord la peur de pas être à sa place, je dirais. On pourrait résumer par le syndrome de l'imposteur. Donc c'est en fait se demander globalement pendant 3 ans, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on fait bien son boulot, est-ce qu'on a des résultats qui sont intéressants, est-ce qu'on va avoir des résultats, parce que bon, au début c'est quand même pas assuré. Je dirais que tout ça, cette quête de légitimité, elle est constante dans la thèse. On est étudiant, donc on est quand même là pour apprendre, donc on peut pas normalement tout faire bien du premier coup. Donc ça, il faut que les encadrants l'aient en tête. Et à côté de ça, on n'a pas envie d'être amené toujours à ce statut d'étudiant, dans le sens où bah, on fait quand même de la recherche. Du coup, on a envie d'être traité comme quelqu'un de légitime, comme un collègue. Et le deuxième aspect dont je voulais parler, donc lié au statut précaire et enfin, au statut de la recherche en général en France, je dirais, c'est la peur, bah, la peur de l'avenir, en fait. Qu'est-ce qui va m'arriver après ma thèse? Est-ce que je vais trouver un poste? Est-ce que je vais enchaîner les CDD de courte durée en espérant un jour qu'un concours s'ouvre pour un poste de chercheur permanent dans la fonction publique. On a beau être passionné par ce qu'on fait, le fait de ne pas savoir jusqu'où on va pouvoir faire ça. Donc, bon.
J'aimerais revenir sur le premier aspect que vous avez abordé tout à l'heure, la quête de légitimité. Vous, pendant vos 3 ans de recherche, est-ce que vous avez eu cette peur de vous dire vraiment, je ne suis pas légitime, qu'est-ce que je fais là?
Oui, et ce n'est pas forcément une peur qui est rationnelle, dans le sens où moi j'ai quand même eu des super encadrants qui m'encourageaient, donc j'avais pas forcément de bonnes raisons entre guillemets de flipper là-dessus, mais je pense que c'est inhérent à la recherche, dans le sens où pour faire de la bonne recherche, il faut savoir se remettre en question, parce qu'il faut savoir dire bon bah voilà, mes résultats ils sont comme ça, mais il y a quand même telle et telle limite qui font que voilà, c'est un exercice qu'on nous demande constamment en fait quand on écrit des articles ou même de manière générale si on va parler dans une conférence. Et donc bon bah fatalement le cerveau, à force de faire cette remise en question permanente, il peut se dire bon bah t'es sûr que t'as fait le bon truc, regarde un tel dans son papier, il a pas fait pareil que toi, hein, enfin tu vois. Donc du coup je pense que c'est assez inhérent à la recherche, bien que bon, il y a des gens qui ont l'air de ne pas du tout souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Donc, il y a les deux extrêmes, je dirais, des gens qui ont un ego un peu surdimensionné et d'autres qui ne se sentent pas légitimes, même s'ils sont de vrais experts dans leur domaine. Donc, c'est assez marrant comme contraste. Après, c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'il faut garder un peu de ce syndrome de l'imposteur pour jamais être trop certain de ce qu'on fait et toujours pouvoir se remettre en question. Mais voilà, il faut réussir à en faire une force qui soit motrice, et qui, voilà, qui nous pousse à avoir des nouvelles idées et tout ça, et pas quelque chose de paralysant, du coup.
Que vous avez en tête un moment précis, une espèce d'anecdote, où vous avez vraiment eu peur, soit d'un résultat faux, soit d'une présentation, soit de quelque chose typique de votre recherche, où là, vous avez vraiment flippé.
Ouais, ça me revient. Du coup, en fait, donc, quand on soumet un article à une revue, le principe, c'est que c'est après relu par ce qu'on appelle les pairs, donc d'autres scientifiques qui lisent l'article et qui font une révision et qui nous envoient finalement une sorte de rapport avec ce qu'ils ont pensé de notre article, les corrections qu'ils aimeraient bien qu'on fasse et tout ça. Bref, et donc du coup, j'avais reçu ces révisions qui étaient plutôt positives dans l'ensemble, qui disaient que l'article était bien, qu'ils avaient des suggestions, mais qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir de gros doutes sur le fait que ça pourrait être publié, quoi. Et donc j'étais en train de faire les corrections, et puis là il y a un commentaire assez anodin finalement. Je fais des petites analyses supplémentaires et tout ça, et là, horreur, je me rends compte qu'il y a un gros souci en fait dans mon analyse, qu'il y a des données qui sont dupliquées. Et donc du coup bah là pour le coup j'ai eu hyper peur. Je me suis dit oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver, machin, je peux pas laisser ça comme ça. Et en fait, le reviewer, en l'occurrence, s'était pas rendu compte que c'était un duplicata, mais c'était son commentaire qui m'avait amené à le découvrir. Et donc, du coup, bon, j'étais en full panique. Mais du coup, je suis allée voir ma directrice de thèse, et puis elle m'a dit, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive. Tu refais ton analyse, tu demandes un peu de temps supplémentaire comparé au délai qui t'était accordé pour avoir le temps de le faire. Et puis après, tu l'expliques dans ton rapport, en mode transparence, et puis ça va bien se passer, quoi. Et au final, ton article, il en sortira grandi, tu vois. C'est mieux que si tu ne l'avais pas vu. Donc au final, ça s'est bien passé.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène, Cécilia. J'espère que votre fin de thèse va bien se passer, que votre soutenance va bien se passer. C'est bientôt, je crois.
Oui, je vois ce que j'appelle le bout du tunnel. Là, j'envoie mon manuscrit dans une semaine et je soutiens dans un mois et demi.
Bon, en tout cas, on espère que ça va bien se passer. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé avec nous la peur, l'émotion dans la recherche.
Merci beaucoup.
Parfois, malgré des années d'études et d'expérience, il se peut que l'on ressente du dégoût dans l'exercice de son métier. Une sale émotion, décrite par Mélissa Touvron, ingénieure d'études en recherche biologique.
Alors le dégoût en général pour moi, c'est vraiment une sensation que très désagréable. que je ressens pas souvent, mais qui me prend vraiment aux tripes, où ça vient vraiment de loin. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie de taper. Enfin voilà, je deviens violente en fait quand je ressens du dégoût.
C'est une émotion très forte, ça.
Oui, voilà. C'est autant ça peut être quelque chose de je suis dégoûtée, mais de très superficiel. Autant le vrai dégoût, c'est une espèce de frustration mélangée à de la colère. Mais c'est pas agréable du tout.
Clairement pas une émotion agréable, mais une émotion, hélas, que vous avez ressentie déjà, non pas dans la pratique, disons, de votre métier de scientifique, dans la pratique du sujet de recherche, mais dans le fonctionnement même du système académique de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce fonctionnement et ce qui vous a dégoûté?
Oui, alors en fait, la recherche, elle travaille sur des appels à projets. Ce qui fait qu'on a des financements tous les 2-3 ans. Et donc c'est compliqué d'avoir un emploi stable là-dessus. Et donc quand on travaille dans la recherche, au début, on enchaîne les CDD de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, il y a eu une loi quand j'ai commencé à travailler qui s'appelait la loi Sauvadet, qui en fait stipulait qu'au bout de 3 ans, voire avec une extension de 5 ans maximum, ils ne pouvaient plus nous employer parce que on avait atteint cette limite et sinon ils devaient nous CDIiser.
Et vous me parlez, quand vous dites ils, ce sont les universités, les
oui.
instituts de recherche.
C'est ça. C'est donc tous les instituts de recherche, que ce soit l'INSERM, le CNRS, voilà, tous les principaux instituts qui font de la recherche académique. Et le seul moyen, en fait, d'avoir un emploi stable dans la recherche publique, c'est les concours. De passer les concours, mais pour ça, il y a un seul poste pour plus de 100 candidats et il y a moins de 20 postes par an. Ou ITA confondu. Donc l'ITA, c'est ingénieur, assistant ingénieur, technicien, administratif, voilà, tous ces postes-là.
C'est tous ces métiers qui n'ont pas besoin d'une thèse, en fait.
Exactement, voilà. Donc les autres métiers, à part chercheur, que dans la recherche.
Donc quand bien même on entend souvent parler que le métier de chercheur ou de chercheuse, on doit passer par des concours, c'est très difficile, c'est de longues années d'études pour peu de postes, mais même dans les métiers où on ne demande pas de thèse, parfois donc technicien ou technicienne, on passe également par beaucoup de précarité.
Exactement. Ouais. Et c'est vrai que au début, et ça on l'entend très rapidement au final, quand on commence la recherche, même, donc j'ai commencé en tant qu'étudiante, stagiaire, et si on observe un peu autour de nous, il y a ça en fait, cette espèce de couperet qu'on a, ou alors dans le sens inverse. Cette espèce de Saint Graal qu'on essaye d'obtenir si on veut rester dans la recherche, c'est-à-dire le poste, passer les concours et obtenir le poste. Mais quand on voit les conditions, quand on voit les réelles possibilités, c'est très 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 compliqué. Et effectivement, en fait, il y a de quoi dégoûter énormément de gens, et moi y compris, en fait.
Et vous-même, vous avez éprouvé ce dégoût en essayant de rentrer dans ce système académique, en passant des concours, en multipliant des CDD courts?
Oui, exactement. Donc en fait, ayant eu vent de tout ça, assez rapidement, j'ai tenté les concours. Donc j'ai tenté un premier en tant qu'assistante ingénieure. Et en fait, je me suis confrontée à les postes fléchés. C'est-à-dire que j'ai postulé à des postes où, dans la description, les 70% me correspondaient, mais il y avait déjà un candidat sur place. Et très clairement, on peut pas lutter contre ça. Et la majorité des postes sont comme ça. Ou les équipes, déjà pour les équipes de recherche, c'est très compliqué d'avoir des postes. Et une fois qu'ils en ont, très clairement, ils vont prendre quelqu'un qui est déjà en CDD chez eux, ils vont écrire le poste pour cette personne, ils vont l'ouvrir parce que, légalement, ils sont obligés de l'ouvrir à toute autre personne, mais ils vont, toute la description est faite pour que ce soit cette personne qui soit engagée derrière. En même temps, qui est le mieux placé que quelqu'un qui travaille déjà dans l'équipe? Et c'est logique, puisque les équipes de recherche sont contentes de cette personne et elles veulent l'employer. Il n'y a pas de... Enfin, j'ai rien contre ça, quoi. C'est très logique. C'est juste qu'il n'y a vraiment pas assez de postes pour le nombre de personnes qui travaillent dans la recherche, quoi.
Et cette réalité qui, au final, a été à l'origine de ce sentiment un petit peu de dégoût de ce système, ça vous a poursuivi très tôt, mais
oui, au final, vraiment au début de la carrière, on se dit ok, on a le temps, on va pouvoir vous voir venir, c'est des CDD, on peut enchaîner des CDD, etc. À l'époque où je me suis moins engagée dans la recherche, il n'y avait pas cette loi Sauvadet. C'est arrivé, allez, j'avais peut-être 2 ans de CDD derrière moi quand cette loi a été promue, et donc j'avais déjà ces 2 ans-là de cumulé. Ce qui fait que je me suis un peu retrouvée avec déjà ces 2 ans, mais sans avoir eu cette perspective. Enfin, on me coupait ma perspective d'avenir. Parce que moi, enchaîner des CDD sur CDD, c'était pas un souci à l'époque. J'étais jeune, voilà, il y avait pas de problème. Tant que je pouvais faire de la recherche et m'épanouir là-dedans, pour moi, c'était pas un problème. Mais là, on m'empêchait vraiment d'exercer mon métier, de faire ce que j'aimais, juste pour une question d'administration. Alors, je me rappelle à l'époque, il y avait eu des manifestations, enfin des revendications pour le côté recherche, parce que cette loi ne s'applique pas qu'à la recherche, mais en fait ne fonctionnait pas pour le système de la recherche. Et donc, en fait, je me rappelle à l'époque, il y a eu on a demandé à faire réviser cette loi pour qu'elle soit adaptée en fait au système de la recherche publique, mais rien n'a abouti et je sais pas combien de personnes se sont retrouvées le bec dans l'eau à ne plus pouvoir être employées parce qu'ils arrivaient à échéance en fait de leur CDD, et en fait c'est pas parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour, mais c'était purement administratif. Et ça vraiment c'était, enfin voilà.
Ça a provoqué ce sentiment du coup très fort dont on parlait au début.
Ah bah oui,
ce dégoût.
Ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est clairement le côté vraiment voilà dégoût. Où j'avais envie de j'avais envie de taper dans les murs quoi.
Bien, la recherche peut vous amener à taper dans les murs, et surtout on espère que la situation s'arrangera un jour pour le système de la recherche, notamment française, que des moyens seront alloués et des postes ouverts.
On croise les doigts.
On croise les doigts.
On reste optimiste.
Mélissa, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Florent Laroche est maître de conférences à l'École Centrale et rattaché au LS2N, le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes. Lorsqu'il était encore en thèse, il a pu ressentir de la sérénité et va nous en parler aujourd'hui.
La sérénité, c'est une émotion qui me semble importante en tous les cas en tant que chercheur pour pouvoir allier notre professionnalisme et nos convictions personnelles. On a la chance dans nos métiers, effectivement, de pas forcément avoir d'objectifs particuliers, hormis nos propres objectifs que l'on se donne. Pas non plus, finalement, de personnes pour juger nos objectifs, à l'exception de nos pairs et de nous-mêmes. Et finalement, être en accord avec ces convictions, ça me semble vraiment important.
Qu'est-ce qui vous procure de la sérénité dans votre métier de chercheur ?
Tout à fait. Au quotidien, la sérénité tant dans les travaux qu'on fait, dans les projets qu'on met en place, mais également finalement dans le discours que l'on tient lorsqu'on fait une communication scientifique, qu'elle soit à destination des professionnels, donc des collègues chercheurs, ou bien même grand public pour valoriser ce qu'on fait. Eh bien, on se dit oui, bah en fait, t'as raison. Vas-y, ose le dire, quoi. Tu peux te permettre de le dire.
Et pour redonner un petit peu de contexte, à quoi ça ressemble votre quotidien? Quelles sont les pratiques que vous avez, les outils que vous utilisez qui pourraient du coup peut-être vous apporter cette sérénité?
Oh là là, alors disons qu'au quotidien, moi mon outil de travail c'est mon téléphone, mon ordinateur, voilà. Puisqu'effectivement dans le cadre de nos projets de valorisation et surtout de conservation de notre patrimoine scientifique, technique et industriel, on utilise tous les outils du numérique, des sciences de l'ingénieur, pour pouvoir faire revivre virtuellement un petit peu ce patrimoine. Allez, je pousse à l'extrême un peu comme un jumeau numérique. Voilà, j'aime pas le terme de jumeau numérique parce qu'on ne peut pas avoir un double numérique parfait. Le virtuel et le réel sont deux choses totalement différentes. Et la réalité, en plus, a cette particularité qu'elle est unique. Donc on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de virtuel. Pour autant, on essaye de s'y approcher. Au quotidien, voilà, on produit de nouvelles images, on va créer des bases de données avec des connaissances et du savoir-faire qu'on va encapsuler à l'intérieur.
Dans le cadre, du coup, justement, de ces bases de données, d'encapsuler toutes ces données, toutes ces valeurs du patrimoine numérique, culturel et scientifique, cette sérénité, à quel moment est-ce que vous l'avez rencontrée?
Alors ça, c'est une bonne question. En fait, ce que je vais vous raconter est une vraie anecdote. Je ne l'ai pas racontée souvent. J'ai soutenu ma thèse en 2007, donc ça fait un petit moment déjà, mais le travail d'écriture du manuscrit est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors c'est vrai qu'en sciences de l'ingénieur, on a l'habitude de nous décrire le manuscrit à l'issue de notre thèse de doctorat, contrairement souvent aux sciences humaines où on va commencer l'écriture dès le début de la thèse. Tout ça pour dire que je me suis dit, allez, pendant 2 mois, tu fais ton ermite, c'était l'été, en gros, juin, juillet, août, et tu produis ton manuscrit pour qu'il sorte en septembre et que je soutienne avec toutes les procédures administratives. J'ai soutenu au mois de décembre 2007. Et j'avais terminé l'écriture de mon manuscrit, sauf l'introduction et la conclusion, et puis une petite préface également que je voulais réaliser pour expliquer un petit peu ces travaux de recherche. Et là, comme beaucoup de fois dans notre métier de chercheur, on n'est pas forcément assis derrière un bureau à se dire « Allez, trouve une idée, réfléchis, pense, trouve une solution ». En fait, c'est en discutant avec des gens, c'est en rencontrant d'autres gens, c'est en marchant dans la rue, ou en étant ailleurs qu'on a l'idée géniale. Je ne dis pas que j'ai eu une idée géniale, mais je me suis dit « Bon, allez, change de ton cadre pour pouvoir écrire ces quelques pages ». Et j'avais un cas d'étude avec le musée des Marais Salants à Basse-sur-Mer. Et je me suis dit « Allez, tu connais Basse-sur-Mer, c'est un lieu qui est chouette. » Donc c'était un vendredi, j'ai pris le TER en vélo, je suis allé à Basse, j'ai fait 500 mètres, je suis arrivé sur la plage où il y a une petite crique et un restaurant-bar où je me suis installé en terrasse pour boire un café. Et là, j'ai eu une espèce de révélation ou d'émotion en fait, où je me suis dit « Mais en fait, c'est ça !» Et il y a un vulgarisateur que j'aime beaucoup, un vulgarisateur scientifique qui s'appelle Louis Figuier. Il était écrivain et vulgarisateur à la fin du 19e siècle. Et Louis Figuier, en fait, il a écrit, entre autres, un ouvrage qui s'appelle « Les merveilles de la science », qui est en 4 tomes et 2 annexes, dans lequel il a décrit, en fait, toutes les innovations technologiques, scientifiques, et quelles que soient les disciplines, c'est-à-dire sciences de la nature, révolution industrielle, machine à vapeur, technique, tout y passe. Et puis il décrit comment fonctionne une machine, il décrit avec un petit schéma, et puis surtout il essaye de justifier un certain nombre de choses. Et en fait, dans une de ces pages-là, Louis Figuier nous dit, je vous citais ce qu'il a dit parce que franchement ça m'a marqué, il a dit « Lorsque l'utilité des travaux de ce genre sera mieux appréciée qu'elle ne l'est encore, d'autres écrivains compléteront cette tâche en embrassant l'ensemble tout entier des conquêtes scientifiques de notre époque et ainsi seront sauvés de l'oubli des monuments précieux qui seront un jour les vrais titres de gloire de l'humanité. » En fait, il a écrit ça en 1896 et je me suis dit, mais en fait, ce que toi tu fais à capitaliser des connaissances anciennes pour essayer de construire un monde meilleur demain, ou en tous les cas, pour éviter qu'on réinvente la poudre et proposer ce savoir-faire pour faire différemment demain, eh ben oui, en fait, ça s'inscrit un peu dans la continuité de ces vulgarisateurs scientifiques. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, finalement, ce que tu fais, ça peut peut-être être utile, quoi. Voilà.
Votre vision de la recherche et de votre travail, de ce que vous vouliez faire, vous l'avez complètement retrouvé dans ses écrits, ça vous a poursuivi, ça vous a remotivé pour, pendant toute la suite de votre carrière ?
Exactement, et alors c'est vrai que dans ma thèse, j'ai donc encadré mon manuscrit avec justement deux textes de Louis Figuier, et j'ai fait pareil dans mon habitation dirigée des recherches en 2017, où j'ai également cité Louis Figuier, et je cite aussi assez souvent Louis Figuier dans mes conférences, parce que voilà, ça permet de me dire, mais en fait, on n'est pas tout seul à faire ce type de travaux. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je pense que je suis un espèce d'épiphénomène parmi d'autres, quoi. On est quelques-uns en France à avoir cette double casquette, sciences de l'ingénieur, histoire des sciences et des techniques. Et finalement, ce qu'on fait, ça peut quand même être utile. Voilà.
Et cette sérénité acquise au moment où vous finalisiez votre mémoire de recherche, est-ce que vous la retrouvez encore aujourd'hui dans votre travail au quotidien ? Est-ce que vous avez peut-être besoin de vous le rappeler de temps en temps ? Pourquoi est-ce que vous faites ce travail ?
Alors c'est intéressant comme question parce qu'en fait je me l'étais pas posé en tant que tel en me disant tiens finalement grâce à Figuier je continue depuis maintenant 14 ans que je suis maître de conférence à être alimenté avec cette déontologie. En fait non, pas du tout. Je crois qu'en fait il y a une petite graine qui a été plantée et qui a continué à germer. Et c'est quand il y a quelques semaines je me suis posé la question en me disant mais oui, quel est-ce qui me tient vraiment à cœur en ce moment et comment je veux voir les choses pour demain. C'est vrai qu'avec 2020 qu'on a traversé qui était un petit peu particulier, faut trouver du sens à ce qu'on fait. Et là j'ai vraiment concrétisé en fait le sens que j'avais donné depuis des dizaines d'années à mes travaux de recherche.
Eh bien Florent Laroche, on vous souhaite encore beaucoup de sérénité pour les années à venir, et je vous remercie d'avoir accepté de nous raconter cette belle anecdote.
Merci beaucoup pour l'invitation, et puis belle fête de la science pour ces 30 ans, du coup.
Et bien, belle fête de la science à tout le monde.
Anaïs Dagneau est sociologue à l'ISEN ICREA Ouest à Nantes. Elle a notamment étudié la revitalisation des centres-villes en menant de longs entretiens avec des élus et des commerçants. Elle a choisi aujourd'hui de nous parler de l'émotion de colère.
Je dirais que c'est une émotion qu'on ressent notamment quand on a le sentiment que nos limites sont outrepassées, par exemple. Je pense qu'une fois qu'on a franchi certaines frontières, on peut ressentir de la colère parce qu'on sent qu'on n'a pas été respecté, par exemple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète souvent quand je ressens un sentiment de colère. Je me dis que c'est un indice de peut-être qu'il y a enfin là, je ressens que ma limite a été dépassée. Il faut que j'y fasse quelque chose. Je le perçois plutôt comme un indicateur. Il y a des colères très fortes qu'on peut ressentir sur le moment. Il y a des colères un peu plus sourdes qui restent dans le temps et celles-là, elles sont parfois plus difficiles à déceler, je trouve aussi.
Avant de parler de quand vous avez ressenti de la colère dans votre métier, est-ce que vous pouvez nous parler d'ailleurs de ce que vous faites, de votre activité de recherche ?
Ah oui, tout à fait. Donc moi, j'ai un doctorat en sociologie. Donc j'ai fait une thèse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la revitalisation des centres-villes, que j'ai menée pendant 6 longues années. Et puis actuellement, je suis donc enseignante-chercheuse à l'ISEN ICREA Ouest, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les sciences et le numérique, où j'enseigne principalement les sciences humaines et sociales. Pour l'instant, en termes d'activité de recherche, on est en train de construire une activité de recherche au sein de l'école. C'est un projet qu'on a envie de mener, on est une petite équipe et on espère travailler sur justement l'impact des nouvelles technologies sur la société principalement.
Quand avez-vous ressenti cette émotion très forte de la colère dans votre activité de recherche ?
Je dirais qu'elle s'est donnée à voir à plusieurs moments, notamment certainement au niveau des premières années de la recherche. On se rend compte que la recherche, c'est une activité qui demande beaucoup d'engagement. On nous demande beaucoup de choses à côté, finalement pour des perspectives d'avenir qui sont aujourd'hui assez réduites ou qui demandent de s'installer dans une forme de précarité pendant longtemps. Et ça, ça peut générer beaucoup de colère. Je pense qu'elle n'est pas... moi, je l'ai ressentie, mais je crois qu'elle est assez commune à beaucoup de doctorants, finalement. Et aujourd'hui, ça explique aussi que le doctorat perde de son attractivité, surtout en France, ce n'est pas forcément le cas à l'étranger.
Alors, quand vous faites de la recherche, contrairement à la biologie ou à la physique, en sociologie, vous vous basez beaucoup sur des entretiens avec des personnes, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. En sociologie, on utilise principalement trois méthodes. Les méthodes quantitatives, donc notamment des analyses de données chiffrées, où on va par exemple faire passer des questionnaires, ça c'est une première méthode. La deuxième méthode qu'on utilise souvent, c'est l'entretien, où on va découvrir au sein, durant des interviews avec des personnes variées, on va aller creuser certaines questions pour comprendre un peu le fonctionnement du monde social, en tout cas en sociologie. Et la troisième méthode, c'est l'observation, où on peut justement essayer de découvrir ce fonctionnement, non pas en allant interroger les personnes, mais en allant regarder vraiment, on appelle nous aller sur le terrain, c'est-à-dire se rendre, par exemple, moi j'ai étudié le travail de professionnels qui s'appellent des managers de centre-ville, qui travaillent dans des municipalités qui sont chargées de revitaliser justement les commerces de centre-ville, et pour étudier justement ce métier, j'ai réalisé des entretiens avec ces professionnels, beaucoup. Donc ça, c'était plutôt la partie interview, mais il y a aussi la partie observation, où je suis allée suivre un manager de centre-ville dans son activité au quotidien durant 3 mois. Donc j'ai intégré en fait une municipalité. Et donc j'ai suivi cette personne pendant 3 mois dans son activité pour regarder comment elle prenait ses décisions, comment elle accumulait l'information, qu'est-ce qu'elle en faisait, comment ça pouvait lui servir aussi dans son activité de tous les jours pour négocier par exemple avec des propriétaires, des commerçants. Donc c'est vrai que c'est une activité de recherche qui est assez impliquante aussi, puisqu'on est sur le terrain, on partage la vie un peu comme des anthropologues qui vont dans des tribus à l'étranger pour découvrir un peu les lois de ces tribus, ou en tout cas leur fonctionnement. Mais c'est un petit peu le même concept, mais chez nous, finalement.
Alors, est-ce que dans ces fameuses activités de recherche, vous avez déjà été confrontée à ce sentiment de colère ?
Oui. Et c'est assez amusant parce que j'y ai été confrontée à la fois à ma propre colère, puisque en tant qu'apprenti sociologue aussi, on découvre un peu le fonctionnement des politiques publiques, de comment elles fonctionnent, de ce qu'elles peuvent générer aussi comme effet sur la ville, notamment en termes d'exclusion de certains groupes sociaux. Donc ça, c'était ma colère, on va dire, vis-à-vis de ce que j'observais en tant que scientifique, on va dire. Et il y avait aussi la colère de mes enquêtés, finalement, qui m'ont ouvert des portes, puisque c'est pas toujours évident de rentrer dans une municipalité, par exemple, pour aller observer, voir ce qui s'y passe. Donc il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se tisse avec les enquêteurs, ce qui a été mon cas, puisque la personne qui m'a accueillie, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on se connaissait, qu'on apprenait à travailler ensemble. Là, c'était vraiment parce qu'il y avait cette personne ressource au sein de la collectivité que j'ai pu mener ma recherche. Donc là-dessus, je suis vraiment très reconnaissante. Et en même temps, c'est vrai que les analyses par rapport à ce que je disais juste avant, sur les effets des politiques que cette personne finalement soutenait, l'analyse que moi j'ai pu en faire, c'est pas quelque chose qui a forcément été bien accueilli par les enquêtés eux-mêmes, notamment par cette personne-là. Je pense qu'il a été en colère vis-à-vis de moi. Quand on est sociologue, on n'est pas biologiste, on n'est pas chimiste, on travaille avec des êtres humains. Donc il y a cette relation humaine à gérer qui peut être, comme toute relation humaine, être parsemée aussi d'émotions diverses et variées, de la reconnaissance, mais parfois aussi de la colère ou de la déception, des choses comme ça. Les recherches qu'on peut mener, elles peuvent fâcher, elles peuvent nous mettre en porte-à-faux aussi vis-à-vis de certaines personnes, et je pense que ça, c'est en sociologie, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Moi, c'est des choses que j'ai pu évoquer avec des collègues, avec aussi des personnes qui m'encadraient. Et ça m'a même aussi conduit parfois à me mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'eux, puisque c'est vrai qu'au départ, moi, peut-être par souci de loyauté, finalement, envers mes enquêtés, j'avais tendance à édulcorer, finalement, un peu mes analyses. Et en fait, c'est mes encadrants qui m'ont aussi poussée à aller plus loin dans l'analyse, enfin à assumer les choses.
Est-ce que vous trouvez que la colère est une émotion qu'on rencontre souvent dans la recherche, en tout cas dans votre domaine, ou au contraire, c'est quelque chose d'assez anecdotique?
Alors, c'est difficile de parler pour d'autres personnes que moi, mais moi, c'est une émotion que j'ai souvent ressentie. La sociologie, c'est souvent une discipline qui a tendance à révéler des inégalités. Et finalement, les premières analyses en sociologie, ça montre finalement un monde social qui est assez figé, où des inégalités se reproduisent. On met souvent l'accent sur ça quand on commence à travailler en sociologie.
Est-ce que c'est un peu fataliste ?
Ça peut être un peu fataliste au début. Donc je pense qu'il peut y avoir de la colère qui est assez spécifique à notre discipline aussi, de voir finalement ces inégalités et de voir aussi tout ce qui peut être mis en place, notamment des politiques publiques qui vont pas toujours dans le bon sens, par exemple, pour aller corriger ces inégalités-là.
Merci beaucoup Anaïs Dagneau d'être venue nous parler de colère.
Merci.
Isabelle Corr est chercheuse au CNRS, au Centre de Recherche CRCINA, Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes-Angers. Et elle a aujourd'hui choisi de nous parler de surprise, une émotion intimement liée à son métier de chercheuse.
La surprise pour moi, c'est déjà une émotion intense et brusque. C'est une émotion soudaine qui dure pas très longtemps et qui est surtout rarement anticipée, je trouve. Rarement, on n'est pas préparé en fait tellement, je trouve, à la recevoir cette émotion. Il y a pas vraiment. C'est quelque chose qui cette émotion de surprise qui me donne de l'énergie. Je vais dire ça comme ça souvent parce que du coup, elle permet aussi de s'adapter déjà assez rapidement. Et puis de se projeter finalement pour essayer de faire avec cette surprise et puis de la faire devenir peut-être un petit peu moins surprenante, de se l'approprier. Ouais, je définirais ça comme ça pour moi, la surprise.
Une définition très complète. Alors avant de savoir quand est-ce que vous avez ressenti de la surprise dans votre travail, est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien en tant que chercheuse? Sur quoi travaillez-vous?
Alors nous, du coup, dans l'équipe dans laquelle je travaille, hein, qui est l'équipe, une équipe du CRCINA, nous travaillons à essayer de comprendre comment la tumeur et son micro-environnement communiquent et comment cette communication finalement influence à la fois sur la réponse de la tumeur au traitement, mais aussi sur son développement. Alors moi aussi, en tant que chercheur, bien entendu, alors je fais toujours un petit peu de travail expérimental, donc ça c'est chouette parce que c'est pas tous les chercheurs, à un moment donné de leur carrière, perdent un petit peu ce lien avec ce que chez nous on appelle la paillasse. Moi, j'ai de la chance, j'ai encore du temps pour ça. Mais je passe aussi du temps à encadrer des étudiants, à écrire des projets, à poser des hypothèses, à élaborer aussi des projets, bien entendu, et puis à trouver des financements aussi, parce que ça nous occupe aussi pas mal.
Alors, dans ce cadre, dans ce quotidien de chercheuse, quand est-ce que vous avez ressenti cette surprise?
Alors moi, la surprise, je l'ai presque toujours exclusivement eue au niveau expérimental. Je me souviens d'un cas assez précis. C'était sur un projet avec une étudiante en thèse il y a quelques années. On travaillait sur une molécule qui était impliquée en cancérologie et on essayait de trouver ses partenaires. Dans nos cellules, une molécule, elle ne travaille jamais toute seule. Elle a plusieurs partenaires, des connus, des moins connus, et il y a tout un pan de recherche qui vise à essayer de trouver, d'identifier de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires à certaines molécules. Et donc, on était parti sur une molécule particulière et on cherchait des nouveaux partenaires. Et puis, en fait, quand on a identifié un de ces partenaires, ça correspondait pas du tout. On n'était pas du tout dans le champ de nos connaissances, on va dire ça comme ça. On s'est retrouvé à identifier une protéine qui était très différente de ce qu'on pouvait attendre dans ce contexte-là, qui n'était pas tout à fait normalement résidente là où elle devait l'être. La première chose, ça a été de se dire « on s'est trompé ». Parce que le chercheur, on doute aussi beaucoup, on doute aussi beaucoup. Et puis finalement, on ne s'était pas du tout trompé, mais cette surprise d'avoir ce partenaire qui était atypique vraiment. Voilà, ça nous a vraiment... la surprise, elle était là ce jour-là. Et c'est surtout que ce projet-là, l'identification de cette molécule-là, a ouvert finalement pour nous derrière tout un champ des possibles. Mais la première chose, ça a été de la surprise. La surprise, d'abord, on s'est dit, on s'est trompé. Et puis, on avait tous les contrôles, on avait tout bien borné. Voilà, donc la surprise est vraiment, on en a fait quelque chose de cette surprise, donc ça, c'est chouette.
Alors justement, quand vous ressentez la surprise, là, dans ce cas-là, vous avez identifié quelque chose qui n'était pas du tout prévu, ou peut-être vous avez d'autres exemples en tête. Comment vous la gérez? Comment vous acclimatez à cette surprise-là?
Alors, la première chose qu'on fait... On essaye d'aller faire un petit peu de littérature, de chercher un petit peu. On se dit peut-être que il y a d'autres personnes dans des contextes un petit peu différents où on n'a pas poussé peut-être nous assez notre recherche bibliographique. On va chercher finalement dans les bases de données aussi. Nos recherches progressaient, mais les recherches des autres aussi progressaient. Et finalement, cette protéine que nous on n'identifiait pas tellement en oncologie, et ben finalement il y avait d'autres équipes aussi qui s'étaient embringué sur cette voie-là dans d'autres types tumoraux, et ça c'est aussi la force de la communauté scientifique, je pense.
Donc vous avez choisi l'émotion de la surprise là pour une anecdote très précise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent d'être surprise pendant que vous faites vos recherches, ou est-ce que c'est au contraire plutôt rare?
C'est pas hyper souvent, mais ça va quand même malgré tout aussi avec cette notion de découverte malgré tout, qui est le propre de notre métier expérimental, on va dire. On est là aussi pour découvrir de nouvelles choses, donc
Et souvent c'est quelque chose de positif.
Ah, c'est ce que j'allais dire. C'est souvent quelque chose de positif, parce que finalement ça va aussi avec l'étonnement et cette surprise. Je dirais presque que c'est un peu le propre de notre métier, parce que c'est ça qui nous transcende un peu quand même. Elle se transforme, cette surprise, et elle nous fait avancer. On se rend compte aussi aujourd'hui, on peut avoir quand on a nos jeunes étudiants qui arrivent, quelquefois ils ont une idée de leurs résultats, c'est-à-dire qu'ils posent leur hypothèse, ils mettent en place leurs outils, ils font l'expérimentation, puis le résultat n'est pas celui auquel ils s'attendaient. Et souvent c'est la manip a pas marché. Et là en fait il faut leur faire comprendre que ce qui est pas facile à faire, parce qu'on le fait tous, hein, de se dire ok, on s'est trompé, ça c'est pas dans les clous. Il faut juste considérer que toute expérience nouvelle est quelque chose de neuf, et qu'on n'a pas à préjuger ou à présupposer, puisque finalement, on fausse aussi un petit peu, je pense, notre interprétation. Et en tout cas, on n'a pas cette naïveté, cette fraîcheur et ce regard neuf sur les choses, en fait. Les chercheurs beaucoup plus anciens, il y avait moins de données aussi autour, donc on était, je pense qu'on partait plus dans l'inconnu. Nos chercheurs du début du siècle, par exemple, je pense, avaient un regard plus neuf, parce qu'il y avait beaucoup moins de choses disponibles dans la littérature et beaucoup moins de choses découvertes. Et du coup, ils partaient beaucoup plus à l'aventure que nous, je pense.
Donc en fait, il faudrait presque réapprendre à être surpris et à gérer l'imprévu.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.
3 ans de thèse, c'est à la fois beaucoup et si peu. Anne Pajot, doctorante au laboratoire de physiologie et biotechnologie des algues à l'IFREMER, revient pour nous sur ce temps qui passe trop vite et qui déçoit.
Alors forcément, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de négatif. La déception soit une activité, la déception par rapport à quelqu'un d'autre, ou la déception par rapport à soi-même.
Et avant qu'on entre un petit peu plus dans le vif du sujet de cette émotion, en tant que doctorante, à quoi est-ce que ressemble votre quotidien? Quel est votre sujet de recherche et à quoi ressemblent tout simplement vos journées?
Alors, mon sujet de recherche, je travaille donc sur une algue, une micro-algue exactement, donc une toute petite algue. Et j'étudie un pigment que cette algue produit, qui est super valorisable en pharmacologie, en aquaculture. Et donc je regarde comment cette algue va produire ce pigment, et puis comment on peut l'extraire au mieux pour l'utiliser plus tard en pharmaco ou même en cosmétique d'ailleurs, et puis en aquaculture également.
Et cette algue, vous manipulez pour voir comment on peut la récolter, comment on peut la produire?
Oui, exactement. Alors en fait, journée type. Je suis avec mes algues que je cultive. On est une culture d'algues dans des contenants plus ou moins grands. Et donc, je vérifie tous les jours si elles se portent bien. Je leur donne à manger si nécessaire. Et puis, de temps en temps, je les prélève, je les filtre, je les analyse pour voir quelle quantité de pigments elles contiennent, pour voir quelle quantité de carbone, d'autres nutriments, molécules, voilà, tout ça. Et je fais ça dans mon laboratoire. Donc, j'ai une grosse partie d'expérimentation, vraiment, comme on voit dans les films, et une grosse partie d'analyse au bureau qui me prend aussi un temps considérable. Mais j'adore cette transdisciplinarité entre la paillasse et puis l'analyse au bureau. Quoi.
Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Vous avez donc le temps de faire tout ça en 3 ans de doctorat ?
Alors 3 ans, c'est très long. Moi, ça me paraissait super long au début de la thèse, mais c'est super court. Donc non, je n'ai pas le temps de tout faire, même si j'aimerais tout concilier, et même si parfois je fais des grosses journées, j'ai quand même une vie à côté, donc on ne peut pas non plus travailler nuit et jour, ce serait complexe. Mais non, bien sûr, je n'ai pas le temps de tout faire. Alors j'essaie de... Voilà, je donne de mon mieux pour ne rien regretter après. Mais oui, dans tous les cas, il faut qu'il y ait absolument une partie expérimentation, du moins pour ma thèse, et une partie analyse après, quoi.
Est-ce que c'est peut-être de là que vient votre déception parfois d'avoir tant à faire et si peu de temps ?
Oui, exactement. Et voilà, pour moi, la déception en thèse spécifiquement, c'est le manque de temps. Parce que quand on manque de temps, on a l'impression qu'on n'a jamais fait assez. Et de jamais faire assez, c'est se remettre en question tout le temps. Alors c'est bien, d'un côté, ça nous pousse à nous dépasser. Mais d'un autre côté, je me blâme beaucoup pour ne pas avoir le temps de faire ci, de faire ça. Parce que le temps, on a tous le même. Et il y en a, j'ai l'impression qu'ils y arrivent très très bien. Et moi, parfois, je suis là à pas avoir de temps. Et parce qu'on est dépendant de plein d'aléas, notamment quand on travaille avec la vie, avec les algues, on ne peut pas toujours tout prévoir, voire jamais. Donc, c'est très souvent qu'on a planifié un truc de 2 heures qui prend 2 jours. Voilà.
Comment vous adaptez votre travail de doctorante à cette espèce un petit peu de menace de ne pas avoir le temps de finir, qui peut planer peut-être tous les jours, bon je ne l'espère pas, mais qui peut être assez pesante. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces choses à faire?
Alors déjà, accepter le fait qu'on n'a pas le temps de tout faire, et ça c'est super important. J'ai la chance d'avoir un directeur de thèse et une co-encadrante de thèse qui sont vraiment qui vont vraiment me rassurer par rapport à ça, et je n'ai aucun problème à leur parler de mes doutes quand j'en ai. Jamais ils vont me dire oh là là mais Anne vite t'as pas le temps, fais ça, pas du tout. Ils vont plutôt me rassurer, me proposer leur aide quand il y a besoin. Donc quand on n'a pas le temps de faire des choses, faut pas hésiter, selon moi, enfin c'est ce que je fais, à s'entourer de personnes compétentes qui peuvent vous aider à faire telle analyse, vous aider à faire telle manipulation. Voilà, s'entourer des bonnes personnes, ça c'est un très bon conseil, pouvoir faire confiance. Après, voilà, j'ai la chance d'en avoir des super autour de moi. Accepter le fait que bah, parfois ça va prendre du retard.
Et s'adapter aux aléas de la recherche tout simplement et s'entourer d'une bonne équipe, c'est un quotidien, ça fait vraiment partie du travail de recherche.
Oui, oui, tout à fait. De toute façon, même si on est entre guillemets seul sur le papier sur notre projet, bon c'est pas mon cas parce que je suis pas seule sur mon projet, mais on a toujours besoin des compétences des autres personnes. C'est très rare qu'on puisse en sortir vraiment tout seul de A à Z. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé et j'hésite pas à demander de l'aide quand j'ai besoin. Je me sens pas amoindrie par rapport à ça. Et les aléas de la recherche, ben déjà, quand on travaille avec la vie, il y en a forcément. Donc, il faut les accepter. Bon, quand il y en a 10 à la suite, c'est un peu compliqué. On peut avoir des coups de mou, c'est sûr. Mais voilà, en les acceptant déjà, ça... Et en parlant aux autres, en leur disant « Oh là là, moi j'ai perdu 2 jours là-dessus. Ah oui, mais moi t'inquiète, la semaine dernière c'était pareil. » En fait, pour tout le monde c'est pareil, que ce soit doctorant, post-doctorant, chercheur émérite, tout le monde ne peut pas tout prévoir.
La déception de ne pas pouvoir tout faire, tout prévoir et que tout se passe comme on l'imagine dans sa tête, cette déception est partagée par l'ensemble des membres de votre équipe. Tout le monde y a eu le droit en quelque sorte.
J'ai l'impression que c'est partagé par beaucoup de gens parce que moi je parle pas mal, donc j'hésite pas à en parler quand je suis déçue et tout le monde me dit « Ah bah oui Anne, tu travailles avec la vie, c'est comme ça, moi aussi. » Donc en fait, ça fait partie de la vie. Puis sans déception, sans moment où on est vraiment pas très bien pendant plusieurs heures, et ben on n'aurait pas à l'inverse tous ces moments de joie complètement opposés.
Ça fait partie du jeu comme toutes les autres émotions finalement.
Bah, j'ai l'impression, mais c'est difficile. Tout le monde ne peut pas contrôler ses émotions. Moi-même, je ne peux pas contrôler mes émotions. Je connais des personnes qui les contrôlent très bien. Alors, ni une mauvaise chose, ni une bonne chose. On est juste comme on est et il faut faire avec. Si on sait qu'on a tendance à tourner l'œil, s'il y a trop d'informations négatives d'un coup, si on est trop déçu d'un coup, et ben, on sait qu'on a besoin de peut-être un jour de repos ou une soirée sans penser au travail du tout. Voilà, il faut bien se connaître.
Et même en recherche, prendre du recul,
c'est
nécessaire.
Déjà, il faut prendre du recul de base sur ce qu'on fait et savoir qu'il y a peut-être quelqu'un dans le monde qui fait la même chose que nous. Donc, il faut faire les choses bien et savoir qu'on n'est pas seul sur le sujet. Ça peut être un point de déception, par exemple. Voir que quelqu'un a déjà publié scientifiquement avant nous notre sujet. Donc, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais,
La déception, comme toutes les autres émotions, ont fait partie et font toujours partie du métier de chercheur et de chercheuse. Merci Anne d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui sont passées derrière le micro de Sophie Potvin et moi-même. Vous pouvez retrouver notre émission ainsi que toutes les autres sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Make a sound so fine. Can you feel me?